Itinéraire de femme. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.
Notre émission est aujourd'hui consacrée à deux personnes très différentes, mais très importantes dans ce qu'elles ont amené à l'humanité. D'une part, la mathématicienne Emmy Noether, et d'autre part, Cicely Saunders, qui est à l'origine des soins palliatifs. Nous allons déjà parler de notre mathématicienne Emmy Noether. Elle est née en 1882 et morte en 1935. Les deux biographies de ces personnes sont tirées d'un livre paru chez Grunt il y a quelques années, dont le titre est « Les femmes qui pensent sont dangereuses ». Nous allons donc parler de la mathématicienne Emmy Noether, née en 1882 et morte en 1935. Lors de l'exposition universelle de 1964 à New York, une liste des 80 mathématiciens les plus importants de l'histoire internationale fut présentée. À côté de 79 hommes apparaissait le nom d'une femme, Emmy Noether. Toutefois, le rapport de 1,79e dans ce cas, ou de 5,495e dans l'annuaire des mathématiciens, ne prouve pas seulement à quel point il était rare qu'une femme parvienne à s'affirmer dans la société masculine des mathématiciens, mais est aussi révélateur du refus de reconnaître, aujourd'hui encore, les capacités féminines pour les mathématiques. Le préjugé, qui est même partagé par de nombreuses femmes, selon lequel le cerveau féminin n'est d'une certaine manière pas apte à la production mathématique, contribue de manière non négligeable au manque d'assurance, toujours d'actualité, des mathématiciennes. Avant que la plus célèbre mathématicienne de tous les temps fasse parler d'elle, le nom de 11 autres fut au moins mentionné. Avec Emmy Noether, elle constitue la douzaine de mathématiciennes d'un très haut niveau. Nous rendons hommage à la grecque Hypatia d'Alexandrie, 370-415, la française Émilie du Châtelet, 1706-1749, l'italienne Maria Gaetana Agnesi, 1718-1799, la suisse Barbara Reinhardt, 1730-1796, la française Sophie Germain, 1776-1831, l'anglaise Ada Lovelace, 1815-1852, la russe Sofia Kovalevskaya, 1850-1891, les anglaises Charlotte Angus Scott, 1858-1914, et Grace Kislon Jung, 1868-1944, l'allemande Ruth Mufang, 1905-1977, et l'américaine Julia Robinson, 1919-1985. Originaire d'une famille juive d'Erlangen, Emmy Noether montre parfaitement que par le passé, un don incroyable allait généralement de pair avec des conditions de vie précaires chez les femmes scientifiques. Sa carrière illustre les conséquences des préjugés, de l'immobilité et du provincialisme dans l'histoire universitaire. Si Emmy Noether n'avait pas eu un petit héritage, elle se serait trouvée sans le sou malgré son mode de vie extrêmement modeste de mathématicienne. Elle ne commença à être rémunérée de façon régulière pour son travail académique qu'à 41 ans. Mais même cette charge d'enseignement dut être prolongée de semestre en semestre. Par ailleurs, elle était beaucoup moins payée que ses collègues masculins du fait de son statut de femme. Il fallut attendre 1934 pour qu'elle reçoive un salaire convenable lors de son exil américain. Elle était alors également professeure invitée au Bryn Mawr College en Pennsylvanie, l'université réservée aux femmes comme il y en avait aux États-Unis depuis le 19e siècle. À l'époque, aucun cours de mathématiques et de sciences naturelles n'était dispensé dans les écoles de filles. Aussi, Emmy Noether fréquenta-t-elle l'université de Göttingen à 18 ans en tant qu'auditrice libre. Ce fut la Mecque des mathématiques jusqu'en 1933, au départ surtout parce que le célèbre mathématicien David Hilbert y enseignait et plus tard aussi du fait de la présence d'Emmy Noether. Mais les nazis arrivèrent au pouvoir et un grand nombre de mathématiciens célèbres travaillant à Göttingen furent chassés d'Allemagne parce qu'ils étaient juifs. Ce fut le cas d'Emmy Noether. Lorsqu'un dirigeant nazi interrogea Hilbert sur la situation des mathématiques à Göttingen, après le départ des Juifs, celui-ci répondit avec amertume « Des mathématiques à Göttingen, il n'y en a plus ». En 1900, cependant, Göttingen commençait à connaître une période de prospérité. Admise comme auditrice libre par quelques professeurs, la jeune Éminoteur, acquit des connaissances suffisantes pour passer l'examen de l'abitur, l'équivalent du baccalauréat, à Erlangen comme candidate libre, puis enfin préparer sa thèse en mathématiques à l'université de la ville. En 1909, à la demande de David Hilbert, elle retourna à Göttingen, qui suggéra l'habilitation de sa talentueuse assistante par autorisation exceptionnelle en 1915. Sa proposition fut rejetée si énergiquement par ses collègues de l'université qui leur répondaient avec indignation, faisant allusion aux piscines de l'époque strictement séparées pour les hommes et les femmes. Après tout, nous sommes une université, pas des bains publics. Mais ce fut en vain. À partir de ce moment-là, Hilbert et Noether eurent recours à un subterfuge. Les conférences de Noether étaient annoncées sous le nom d'Hilbert, suivies de la mention « avec l'assistance de Fräulein du docteur Noether », Hilbert étant toutefois absent pendant le séminaire. En 1918, Éminoteur publia son célèbre article sur les invariants, à la suite de quoi Albert Einstein en personne proposa d'intervenir auprès du ministère. L'année suivante, alors que la situation des femmes s'améliorait après la Première Guerre mondiale, Éminoteur obtint enfin son habilitation. Elle dut toutefois attendre encore 3 ans avant d'être nommée professeure extraordinaire. Elle était une théoricienne remarquable et un professeur talentueux. Elle révolutionna l'algèbre, mais apporta aussi une contribution essentielle à la physique moderne, dont la portée fut confirmée une nouvelle fois lors de la récente découverte présumée du boson de Higgs. En effet, les découvertes du physicien Peter Higgs étaient fondées sur des calculs dont les bases avaient été posées par Éminoteur. D'après les témoignages, ses conférences étaient très animées. Les récitations de théories établies étaient rares, il s'agissait principalement de théories en cours d'élaboration. Chacun de ses cours magistraux était un programme, raconta avec enthousiasme un de ses élèves. Éminoteur appelait cela parler mathématiques, et poursuivait la discussion après ses cours, par exemple, quand elle allait se promener avec ses élèves le long de la laine. Albert Einstein aurait dit à son propos, Éminoteur préférait faire disparaître les lauriers qu'en être couronné. Après avoir parlé de cette brillante mathématicienne, nous allons parler de Cicely Saunders, née en 1918 et morte en 2005. Le cancer est également aux origines de la médecine palliative, c'est-à-dire l'ensemble des soins dispensés aux patients dont la maladie était déjà avancée, l'espérance de vie limitée. Celle qui a fondé, ou bien devrait-elle dire plutôt redécouvert, cette médecine au sein de la médecine, la prise en charge de patients lorsque les chirurgiens et les thérapeutes ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi essayer, était une infirmière qui étudia plus tard la médecine et devint médecin. À la fin des années 1940, Cicely Saunders prit joint d'un émigré juif originaire de Varsovie qui était en train de mourir d'un cancer. À l'article de la mort, celui-ci lui laissa la totalité de ses économies, 500 livres, en émettant le souhait d'être une fenêtre dans sa maison. Cicely Saunders comprit ce qu'il avait voulu dire en découvrant les sinistres services de cancérologie des hôpitaux londoniens. Ils étaient pleins de malades agonisants dont on avait arrêté le traitement. Leurs médecins les délaissaient, souvent sans leur fournir des soins de base et des calmants suffisants pour atténuer leurs douleurs. À l'époque, la morphine était considérée comme une drogue inutilisable en médecine, condamnant ceux qui en prenaient à la dépendance, à la déchéance physique et au suicide. Cicely Saunders reprocha aux médecins de ne pas administrer des analgésiques assez efficaces aux patients souffrant de maladies incurables. D'après elle, beaucoup avaient le sentiment d'être abandonnés par leurs médecins à leur fin de vie. Idéalement, le médecin devrait rester le centre d'une équipe soignante dont la coopération permet de procurer un soulagement aux patients en fin de vie lorsque la guérison n'est pas possible, de limiter leur souffrance et de leur apporter espoir et consolation, dit-elle. En 1962, elle démontra que, dosée correctement, l'administration d'opium comme la morphine ne provoquait ni dépendance ni déchéance, mais permettait au contraire de maîtriser le cercle vicieux de la douleur et du désespoir. À la suite de ces expériences, 95% des patients atteints de cancer virent disparaître leur douleur, à condition que la morphine leur soit administrée en quantité suffisante. La médecine palliative est née de l'échec de l'oncologie et de la chimiothérapie à diminuer la mortalité lors des cancers avancés. Ce serait cependant une erreur de la réduire à cela. L'accompagnement des patients en fin de vie, écrivait Cicely Saunders, ne doit pas être considéré comme un élément séparé et foncièrement négatif de la lutte contre le cancer. Il ne s'agit pas uniquement de la phase de la défaite ou d'une tâche ingrate et désagréable. Par de nombreux aspects, ces principes sont les mêmes que pour toutes les autres périodes de la vie, sauf que l'issue est différente. Cicely Saunders insistait sans cesse sur le fait que mourir n'était pas la mort, mais bien plus une partie de la vie. Par conséquent, une personne vivant ses derniers jours ne devait jamais être privée de dignité, d'amour et d'attention. « Tu es important parce que tu es toi, disait-elle au mourant, et jusqu'à ton dernier souffle, tu auras de la valeur à nos yeux. Convaincue de cela, elle prit position contre l'euthanasie. Elle était d'avis que la menace de la mort ne devait pas servir de prétexte pour mettre fin volontairement à la vie. Au lieu de tuer les mourants pour faire cesser leurs souffrances, nous devions nous concentrer sur des mesures concrètes pour faire disparaître leur douleur et sur des ressources spirituelles pour que leurs derniers jours et heures valent la peine d'être vécus. Si Cicely Saunders fut souvent comparée à Florence Nightingale, l'ange de la miséricorde de l'époque victorienne, par de nombreux aspects, elle eut un rôle plus important. Tandis que Nightingale réalisait un travail de pionnière dans l'amélioration et la professionnalisation des soins de nos malades, Saunders parvint, à partir de rien, à créer la médecine palliative et le mouvement des hospices. « Il m'a fallu 19 ans pour construire un foyer autour de cette fenêtre », déclara-t-elle à l'occasion de l'inauguration de son premier hospice en 1967 à Londres. Et même si elle était déjà vénérée par beaucoup comme une sainte pendant sa vie, c'est avant tout grâce à son intransigeance, son attitude qui imposait le respect, son caractère « difficile » entre guillemets, et sa ténacité qu'elle parvint à atteindre son objectif. Malgré l'opposition d'une grande partie du corps médical, qui assimilait la mort à l'échec, elle instaura une médecine pour la fin de vie et de la fin de vie. Dame Cicely Saunders, faite dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par la reine en 1980, mourut d'un cancer le 14 juillet 2005, à l'âge de 87 ans, dans l'hospice de Saint-Christopher qu'elle avait elle-même fondé. À bientôt sur Radio Shalom Dijon.
Itinéraire de femme. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.